Soyez les bienvenus sur BFM Radio. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur BFM, la radio des deux rives.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center d'Agen Boué. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition vous accueille 26 route de la Capelette à Boué. Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Boué près d'Agen. Zone La Motte Maniac et sur real-chocolat.com. Réal Chocolat fait naître la gourmandise. VFM, votre radio de proximité sur 88.9.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé à l'hebdo sur VFM. Vous nous écoutez chaque lundi à 18h sur le 88.9. Pendant une heure, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Ça tombe bien, tout de suite, voici le sommaire.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire, eh bien, de ce nouveau numéro inédit de Chut, on écoute la télé, on va consacrer une partie de notre émission à la sortie du film La Daronne de Jean-Paul Salomé qui sort mercredi. Dans les salles, Jean-Paul Salomé sera notre invité avec Hippolyte Girardot. On va consacrer également une large partie de notre émission à la diffusion du biopic sur Grégory Le Marchal, Pourquoi je vis, diffusé ce soir sur TF1. À cette occasion, large page avec Sébastien Charby, le coproducteur du film. Nous aurons le plaisir, eh bien, d'avoir en ligne également Michael Lumière, le merveilleux interprète de Grégory Le Marchal. Et puis nous aurons le plaisir d'avoir également le vrai papa de Grégory, Pierre Le Marchal, qui sera notre invité pour nous donner ses impressions sur le film. Apprendre à t'aimer, c'est également l'événement demain soir sur M6 avec une soirée spéciale. Julie Debona et Stéphanie Pilonka seront avec nous dans cette émission pour en parler. Et enfin, Caroline Benaroche également sera notre invitée pour nous parler de son documentaire Choc pour France 5 diffusé cette semaine. Tu seras hétéro, mon fils. Un documentaire à ne pas manquer, évidemment, aussi. Et puis, eh bien, écoutez, ça va être simple. Dans un instant, on va démarrer notre spécial La Daronne. Mais juste avant, voici les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences, eh bien, de lundi dernier, il y avait les débuts de La Garçonne sur France 2. C'est un très beau score avec 4 334 000 téléspectateurs et 19,5% de part de marché. Du coup, TF1 avec Trop Jeune pour moi arrive deuxième avec 3 697 000 téléspectateurs et 17% de part de marché. Et puis, c'est M6 qui résiste bien avec Cauchemar en cuisine. Quasiment 3 millions de téléspectateurs pour 13,7% de part de marché. Mauvaise semaine pour TF1, c'est France 3 mardi qui arrive en tête également avec La Stagiaire. La nouvelle saison a attiré 4 500 000 téléspectateurs et a écrasé la série américaine de TF1 Big Little Liars avec seulement 2 470 000 téléspectateurs. Et France 2 fait un petit score avec Les Pouvoirs Extraordinaires du Corps Humain, 2 104 000. Petit score également pour En Famille sur M6 avec seulement 1 805 000 téléspectateurs. Mercredi, il y avait Alex Hugo sur France 2, c'est en tête des audiences avec un très gros score, 5 501 000 téléspectateurs, 25,2% de part de marché. TF1 est très loin derrière avec The Resident, 3 183 000 téléspectateurs seulement et 15,1% de part de marché. Heureusement, jeudi, TF1 se rattrape avec sa série Grand Hôtel et là, est en tête des audiences. Voilà ce qu'on pouvait retenir sur les audiences de la semaine dernière.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et c'est un coup de cœur ciné cette semaine consacré au film La Daronne qui sort le 25 mars dans les salles. Et on est justement avec son réalisateur Jean-Paul Salomé qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La Daronne, eh bien, une véritable histoire policière, une comédie policière comme moi j'aurais pu le voir parce que j'ai eu la chance de le voir avant tout le monde au Festival de l'Alpe d'Huez. Jean-Paul, comment on pourrait vous la qualifier? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme de comédie policière?
Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que le film est l'adaptation d'un roman qui s'appelle La Daronne, qui a été écrit par Anne Lorquer et qui est une avocate pélaniste qui suivait des affaires de deal et de drogue. Donc elle sait très bien de quoi elle parle. Et donc le film est une comédie policière, parce qu'il y a un vrai thriller derrière tout ça, et donc il raconte l'histoire d'une Isabelle Huppert qui joue le personnage de Patience Portefeux, qui est une traductrice judiciaire spécialisée dans les écoutes, la traduction pour toutes les histoires de drogue, de dealers. Donc elle traduit les écoutes que fait la police, elle traduit les interrogatoires, vu qu'elle parle arabe et français. Donc elle est traductrice spécialisée dans toutes ces histoires de deal. Et qu'arrivé un moment, c'est la fin de sa carrière, elle a beaucoup de charges, elle a une mère à entretenir qui est en EHPAD, elle a des filles qui sont en train de chercher des logements dans Paris, et elle a envie de larguer les amarres, de changer de vie, et par une série de successions de hasards, elle va petit à petit glisser et passer un peu de l'autre côté du miroir, ou en tout cas franchir la ligne jaune, comme on dit.
Pour le coup, le choix d'Isabelle Huppert, je crois que pour la petite histoire, ça a été adapté un peu pour Isabelle aussi.
Oui, j'ai vraiment écrit en pensant à Isabelle, et j'ai eu la chance qu'elle lise aussi le roman comme moi, et elle a adoré le roman, et dès le départ, ça l'a intéressée, et elle m'a dit, bah écris, et évidemment, il faut un scénario, mais en tout cas, le projet m'intéresse, ce personnage m'intéresse, et si le scénario est bon aussi, comme l'est le livre aujourd'hui, à l'époque, eh ben je le ferai. Et donc, on a travaillé avec Anne Lorquer, l'auteur, qui m'a aidé à adapter, et puis à la fin... Antoine Salomé, mon fils, qui est scénariste et qui est venu aussi serrer les boulons un peu à la fin. Et donc, on a travaillé tous les trois jusqu'au bout pour amener à Isabelle le meilleur scénario et le meilleur personnage. Et après, les choses se sont faites assez facilement. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a donné justement ce déclic de vouloir adapter ce roman La Daronne quand vous l'avez lu la première fois? À quel moment vous vous êtes dit j'aimerais bien l'adapter en film, quoi?
Ah ben on m'a fait lire le roman. C'est quelqu'un, un producteur, Marc Himmer, a pensé à moi, et je lui en serai gré tout le temps. En tout cas, il a pensé à moi, il connaissait le livre et il a donné à un autre producteur en lui disant, écoute, voilà, tu connais Jean-Paul Salomé, j'aime bien ce qu'il fait et j'ai lu ce livre et je pense que c'est pour lui qu'il y a quelque chose qui peut l'intéresser. Donc voilà, ça arrive assez rarement, et donc on m'a fait parvenir le livre que j'ai lu tout de suite, et moi en lisant le livre j'ai tout de suite pensé à Isabelle Huppert. Donc voilà, ça, l'enchaînement des choses s'est fait comme ça.
C'est chouette que quand on pense à une actrice, elle dit oui. Ça, c'est le rêve de tout réalisateur.
C'est très rare. Moi, j'ai souvent écrit pour des comédiens ou des comédiennes et c'était pas eux à l'arrivée quand le film s'est fait. D'ailleurs, des fois pour des histoires d'emploi du temps, enfin, plein de trucs. Mais là, je crois que c'est vraiment la première fois ou une des rares fois où j'ai vraiment écrit pour la comédienne et pour Isabelle et qui a été celle qui a tourné le film, ce qui était formidable.
Alors dans le rôle de la maman d'Isabelle Huppert, les fans de 10% reconnaîtront évidemment Liliane Revers, formidable aussi.
Oui, j'ai eu la chance de faire un casting incroyable avec tous ces comédiens, ces comédiennes. J'avais envie qu'Isabelle, qui a quand même le rôle phare, elle est quasiment là dans toutes les scènes du film, dans tous les plans. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'autres femmes. Il y a des dealers, des jeunes dealers d'origine marocaine, il y a des chinois. C'était aussi le plaisir d'Isabelle de la mettre avec des partenaires avec qui elle n'a pas l'habitude de tourner. Et c'est vrai qu'on a cherché la comédienne qui devait jouer sa mère et qu'à un moment donné, j'avais cette idée de Liliane, on a tourné un peu autour, et puis Liliane était occupée, après elle s'est libérée, et puis elle a lu le personnage, et ça lui fait beaucoup de plaisir aussi de jouer avec Isabelle. Elles n'avaient jamais tourné ensemble, jamais joué, dans 10%, je crois qu'elles n'avaient pas de scène commune, mais là, elles avaient envie de jouer, et les scènes entre elles sont assez fortes et riches en émotions, donc Liliane a amené ça de manière très naturelle.
La partie comique, on va dire, un peu, hein, de cette histoire, elle est amenée par ces deux malfrats. Ah, on peut dire ils sont incroyables les deux.
Oui, c'est le côté un peu comédie italienne, quoi. C'est-à-dire qu'on part d'une réalité qui sont des jeunes dealers d'origine marocaine. Ce qui veut pas dire que tous les Marocains sont des dealers ou que tous les dealers sont marocains, mais comme là elle traduit ces gens-là, bah c'était un peu l'obligation, le cahier des charges de l'histoire. En tout cas, elle traduit plusieurs et parmi eux, elle en détecte quand même deux un peu bas de plafond. Pour pouvoir les berner, parce qu'elle va leur faire avaler des couleuvres énormes. Et donc, évidemment, qu'elle est obligée de choisir des types qui sont un peu bruts de décoffrage, des types qui ont besoin de dealer vite parce qu'il leur manque du shit, ils ont perdu toute leur cargaison, ou leur dernier shit est pas de bonne qualité, et ils ont besoin d'aller vite et sans trop réfléchir, de prendre ce qu'ils trouvent. Et à partir de là, elle arrive avec une cargaison d'une tonne et demie de shit, donc pour eux, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, quoi. Mais on les regarde avec cette tendresse quand même. Le film, je crois que les personnages sont drôles, ils existent, ils sont humains, et en même temps, c'est un peu comme on dit, ces crétins magnifiques que pouvaient nous montrer les comédies italiennes dans les années 70, où on montrait des petites gens un peu, voilà, qui se démerdouillaient dans la vie et qui étaient drôles et qui étaient un peu des ringards, mais qui étaient drôles quand même.
Un peu le costaud et un peu le tout frais, ça fait un peu Laurel et Hardy en même temps, ce duo.
Oui, il y avait ça dans le bouquin, un type qui était comme ça, voilà, un peu Laurel et Hardy exactement, avec Isabelle au milieu, qui est quand même aussi une silhouette fine, on va dire, et de l'avoir confronté à ces types dont certains font 1m90 et pèsent 120 kilos et tout ça roule dans des Porsche Cayenne. C'est vrai que moi, en tant que spectateur, en tout cas, je n'avais jamais vu Isabelle Huppert dans un emploi comme celui-ci, comme celui-là. Et qu'à partir de là, il y avait une volonté de spectateur, de nouveauté, de créer une situation inconnue, quoi. Et d'image inconnue.
On va parler du rôle de Philippe dans quelques instants, puisque Hippolyte Girardot va nous rejoindre aussi pour en parler. Mais quel a été votre meilleur souvenir de tournage sur ce film, pour le coup?
Mais moi, c'est le tournage dans son entier qui a été un très très beau souvenir. D'abord, le matin, vous arrivez, vous dites « Bon, allez, je vais me pincer, mais je tourne avec Isabelle Huppert. » Pour un réalisateur, c'est quand même un rêve. D'abord, c'est un rêve parce que c'est une icône, parce que c'est une des meilleures comédiennes au monde. Et puis parce que c'est une femme qui est exceptionnelle, qui amène une électricité sur le tournage comme ça, mais qui amène quelque chose en même temps d'électrique, mais de positif. Parce que elle a toujours cette envie, elle a toujours cette flamme de jouer des choses différentes, elle a cette curiosité. On tournait le soir, elle allait quand même au théâtre, le week-end elle allait au cinéma, enfin... Elle voit un nombre de choses, c'est une sangsue comme ça, elle se nourrit de tout ça, et ça c'est très très agréable, parce qu'à un moment donné ça ressort quand elle joue tout ça, ça ressort, ça la nourrit comme femme, ça la nourrit comme actrice, ça la nourrit comme interprète, et tout ça réapparaît, et c'est très très agréable, parce qu'elle est très investie, et elle cherche toujours à améliorer le personnage, la réplique, le déplacement, le rythme d'une scène. C'est pas un bon moment, c'est 2 mois de bons moments que j'ai vécu avec elle.
On va écouter la bande-annonce, La Daronne, ça sort le 25 mars au cinéma.
Elle est où la tapane? La tapane, bordel!
Vous êtes en garde à vue pour trafic de stupéfiants.
Antihafiyaj bisabab tijarat almohadirat.
J'aime pas cet hôtel, j'aime pas cette chambre.
C'est pas un hôtel ici. C'est un EHPAD et ça me coûte 3 200 euros par mois.
À table.
Je prends.
انا واحد السيده بوليسيه نعرفها مزيان قالت لي لو كان ما تسمعش الكلام راك غادي ترشى في الحبس وانا معاك.
Il sort de l'autoroute, lui.
J'ai là que le portable, j'ai le câble, t'es là, t'exister.
Mais Mika, trouve-moi ce camion.
Khadija, il y avait combien dans ce camion?
Bzaf. Beaucoup, beaucoup.
Il y avait au moins une tonne. Il est pas parti en fumée.
Billets de banque et drogue, il est mignon celui-là.
Il est où le chien de monsieur? Allez, il cherche.
Cause arrivage bled, vent 1/2 mètre de frappe à 250.
Ouais, on bouge là, frère. La galérance, elle est finie là.
La galérance, elle est finie.
Voilà, La Daronne, ça promet. Hippolyte Girardot va nous rejoindre dans un instant. Jean-Paul, merci d'avoir été avec nous à quelques jours de la sortie du film. Comment on se sent, même vous, avec l'expérience? Est-ce que on a toujours ce petit stress quand même, voilà, quelques jours de la sortie?
Ah bah bien sûr, l'expérience n'y fait rien. Hein. Ça, c'est même de plus en plus dur. On est de plus en plus anxieux. Mais voilà, en même temps, là, j'ai confiance dans le film. Je sais ce que j'ai fait. J'ai l'impression d'avoir fait... Enfin, ça me très personnel et... qu'Isabelle soit contente, qu'on ait envie de retravailler ensemble, c'est le plus principal. Maintenant, on va voir comment est l'accueil du public. Mais en tout cas, c'est un film pour le public, évidemment, avec une Isabelle Huppert très, très différente. Ça, c'est sûr.
Eh bien, on va voir ça au cinéma. Donc, je vous rappelle, le 25 mars, La Daronne, et on retrouve Hippolyte avec nous dans quelques instants. Merci, Jean-Paul.
Merci.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé avec Hippolyte Girardot qui nous a rejoint pour déjà la 2e fois en 2020. Hippolyte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous allez devenir un habitué de l'émission. Et là, on vous retrouve avec La Daronne au cinéma le 25 mars prochain. Une belle histoire que Jean-Paul Salomé vient un petit peu de nous décrire. Et je voulais rentrer un petit peu avec vous, et bien un petit peu plus dans le personnage de Philippe que vous incarnez dans ce film.
Ah, le personnage de Philippe, c'est l'amoureux de La Daronne.
Transi, je dirais presque.
Oui, bah oui. Après, on peut, après dans le détail, oui, c'est un amoureux qui est pas spécialement transi, mais qui est très intimidé. Je trouve qu'il est un peu maladroit, comme on peut être quand on est trop amoureux ou quand on est un adolescent. C'est un sentiment, oui, un peu presque enfantin, comme ça, de cet homme qui la regarde avec les yeux tendres et qui ne sait pas très bien comment s'y prendre. Et c'est assez touchant de jouer ça dans un corps d'un homme de 60 ans, quoi. Ça, c'est assez cinématographiquement. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Et retrouver Huppert avec qui je m'entends très, très, très bien. C'est vraiment une grande joie. C'est très facile, en fait, de jouer ce personnage comme ça avec elle.
Vous avez partagé quelques scènes ensemble, mais il est vrai qu'Isabelle est tellement présente dans le film, elle est sur tous les plans, sur toutes les scènes. Quel est pour vous votre meilleur souvenir avec Isabelle sur ce film?
Le meilleur souvenir que j'ai pu avoir avec elle, c'est dans les scènes de mensonges, c'est-à-dire moi ne me rendant pas compte qu'elle est en train de me baratiner ou les choses comme ça, c'est-à-dire d'être très sincère dans ma dans l'expression de mes sentiments face à quelqu'un qui est en train de mentir avec beaucoup de sincérité aussi. Ça, c'est vraiment des choses de comédien qui sont très marrantes à faire et très délicates en fait. Alors à l'écran, on voit pas grand-chose, hein, c'est pas spectaculaire du tout, mais dans le jeu, dans le travail, c'est vraiment passionnant à faire.
Alors, qu'est-ce qui vous a plu justement dans le scénario quand vous l'avez lu la première fois, si vous n'avez pas lu le livre, quand vous avez lu le scénario, qu'est-ce qui vous a donné ce déclic et qui vous a donné envie d'aller sur ce projet?
En fait, j'étais à la fois très heureux de retrouver Isabelle, de travailler avec elle, à la fois très heureux d'être sur un film très contemporain, sur le destin d'une femme que je trouve tout à fait à la fois extraordinaire et en même temps banale. C'est-à-dire, on peut très bien, on y croit. Enfin, je veux dire, elle ne fait pas non plus quelque chose de... Très peu de gens le font, certes, mais elle fait pas quelque chose de complètement, comment dire, out of the box, quoi. Elle est quand même dans une situation qui l'oblige, d'une certaine façon, qui l'oblige à faire ça. Elle pourrait faire autrement, certes, ce serait même mieux au niveau légal qu'elle le fasse, certes, mais on comprend très bien pourquoi et comment elle le fait. Et ça, c'est un... Ça, c'est quelque chose que je trouve très contemporain, notamment dans le cinéma, comme dans les séries aussi. Il y a beaucoup de personnages comme ça qui sont, oui, qui sont manipulés par la réalité, quoi. C'est comme s'ils suivaient un chemin qui fait, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et finalement, je vois pas tellement, comment faire autrement. Comme je le disais en interview, je sais plus quand, à quelqu'un, je disais, mais l'occasion fait la daronne, quoi, dans ce film. C'est vraiment ça, quoi. On dit, l'occasion fait le larron, mais là, c'est l'occasion fait la daronne, quoi. Et c'est vrai, c'est ce qui lui arrive.
Alors, sans spoiler évidemment et sans raconter, moi, une des scènes que j'ai trouvées plus touchantes, c'est au moment où il comprend, Philippe, oui. Où il se rend compte, où il comprend. Voilà, sans dire ce que c'est, mais voilà, je trouve que ça a été très bien joué en tout cas.
Bah, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une scène qu'on a sur le papier. Bon, c'est une toute petite scène, très peu de dialogue, rien. Et en fait, quand on l'a tournée, on s'est rendu compte que c'était une. Enfin, moi, je me suis rendu compte que c'était une très très bonne scène, que ça m'a marché. Qu'elle marchait très bien. Et je pense que, et quand je l'ai vu dans le film, c'était encore plus flagrant dans la mesure où, dans le film, ça apparaît comme une conclusion très très forte.
Bon, on n'a pas fini peut-être de se revoir. Du coup, 2020 est loin d'être terminé. Merci d'avoir été pour cette deuxième fois avec nous, à quelques jours de la sortie du film pour terminer. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez, vous, en tant que comédien, ce petit trac à quelques jours de la sortie du film, au moment où il va appartenir au public finalement?
Bien sûr, on a toujours le trac, quelle que soit l'exposition qu'on a dans un film, on a toujours le trac pour le film. Ça, c'est quelque chose qui est qu'on ne peut absolument pas éviter, quoi. C'est comme ça. Ça fait partie du truc.
Et bien on va croiser les doigts et moi je vous le conseille, La Daronne, c'est le 25 mars au cinéma, ne le ratez pas. Vous allez pouvoir suivre eh bien un thriller et en même temps voilà de la comédie et je pense que vous avez passé un bon moment, c'est sûr. Nous en tout cas on a passé un bon en le voyant eh bien un petit peu avant tout le monde au festival de Alpes d'Huez. Merci Polyte.
Merci à vous.
Et on se requitte avec un petit extrait.
C'est pourquoi ces types t'ont frappé?
Parce que ce shit là que tu leur vends, il est à eux.
Il y a vraiment quelque chose de paradoxal chez toi. Hein.
Bonjour.
Tu dégages une confiance en toi, ça m'impressionne. Tu me fais penser à des mecs que j'ai de coffret.
Et on dit comment, gros dos dans le fion en arabe?
Sbag bien, fezouk.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on démarre notre spécial Pourquoi je vis, le téléfilm diffusé ce soir sur TF1, l'événement, le biopic sur Grégory Le Marchal tant attendu. C'est un beau projet porté par deux producteurs, Sébastien Charby et Mathieu Vergne. Sébastien Charby, bien connu de notre émission, qui est avec nous en ligne. Bonjour Sébastien.
Bonjour Alain, ravi de vous entendre.
Alors on va évoquer évidemment ce téléfilm à travers trois axes. L'axe du producteur, l'axe de la vraie famille avec Pierre qui va nous rejoindre, Pierre Le Marchal, d'ici quelques instants. Et puis des comédiens évidemment avec Michael Lumière qui a fait un travail sur ce téléfilm absolument incroyable. Mais d'abord Sébastien, depuis combien de temps germe l'idée de ce biopic sur Grégory?
C'est une idée dont on a parlé avec Mathieu il y a plus de 5 ans maintenant, il y a 5 ans et demi, puisque c'était à la naissance de mon fils, donc c'est assez facile de s'en rappeler. Et il y a eu une première rencontre avec Pierre et Laurence il y a 5 ans et demi, voilà, et où dans un premier temps, ils ont refusé de faire le projet pour des raisons qu'on a comprises à l'époque. Et puis c'est une discussion qui s'est installée dans le temps et il y a 2 ans, on s'en est parlé et il y a 1 an et demi, ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à raconter cette histoire-là de manière à faire passer un message, parce que c'était ça qui était important pour eux à travers ce projet-là.
On va apprendre plein de choses sur la maladie, bien évidemment. C'est un téléfilm, alors évidemment on connaît l'issue, mais optimiste, parce qu'il n'est pas traité de façon larmoyante. Il est vraiment voilà, positif. On voit la bataille de Grégory tout au long, évidemment, de ce parcours, de ses rêves aussi. C'est un point de vue qui était voulu par la famille et par vous deux, par toi et Mathieu.
Ça a été la proposition dès le début. Mathieu a été producteur artistique et producteur de la Starac, donc il a connu Grégory, donc il a connu voilà la pulsion de vie qu'incarnait Grégory. Moi, je l'ai vu depuis ma télévision, donc comme beaucoup de téléspectateurs, j'ai eu une relation à sens unique où je ne voyais que ce qu'il était, mais il dégageait quelque chose de très positif, et c'est ce qu'on a voulu proposer aux parents en disant il a une valeur un petit peu d'exemple et puis inspirante, parce que quand les choses sont impossibles mais qu'on arrive à les faire, ça donne à tout le monde ce sentiment que nous aussi, on doit se bouger pour faire les choses. Et donc, ça a été la première proposition. Et puis, Nicolas Douai, qui est l'auteur, a trouvé ce titre qui est repris d'une des chansons qui est repassée à la postérité avec Grégory, qui est « Pourquoi je vis ?». Et ça dit bien, oui, l'issue, on la connaît.
L'interprète de Grégory, ça a dû être, à un moment donné, on s'est dit, il faut pas trahir, évidemment, le personnage. Il faut essayer de trouver le comédien qui va l'incarner de façon parfaite. Mais comment tomber sur quelqu'un d'aussi parfait que Michael ? Il est incroyable, Michael Lumière.
Il est incroyable. Il est incroyable parce que c'est déjà un très bon acteur. Évidemment, il lui ressemble. On a eu un énorme coup de chance. C'est nos directeurs de casting qui nous en ont parlé. Ils nous ont dit, on a vu quelqu'un qui lui ressemble. Et puis en plus, c'est un bon comédien. Et puis en plus, c'est un super garçon. Et puis en plus, c'est un gros bosseur. Et au fil du projet, on s'est rendu compte que tout ça était vrai. Et puis après, c'est un grand bosseur. Il s'est beaucoup imprégné de ça. Il a beaucoup parlé avec Pierre, Laurence, Leslie, il a appelé des gens, il a lu beaucoup, donc c'est vraiment un travailleur comme, enfin, presque comme certains comédiens anglo-saxons, j'ai envie de dire. Il s'est immergé là-dedans, ça lui a beaucoup demandé. Je me souviens, le premier jour du tournage, on lui demandait d'être sur scène face à 300 personnes et de faire le discours de remerciement de Grégory après sa victoire. C'est l'une des premières séquences qu'il a tournées. Il était extrêmement tendu à l'idée de cette séquence, et puis à un moment, il était tellement sincère qu'il a réussi à la faire, et que on la voit dans le film, c'est une scène qui est touchante, c'est quelque chose qu'on a tous en tête, qui nous a marqué, et on la retrouve. Et il s'est emparé, il a fait cet exercice de playback qui est très délicat, qu'on voit entre autres dans la bande-annonce qui circule, et qui nous semblait assez convaincante pour être vraiment touchante.
Eh bien écoute, on va écouter un petit extrait évidemment, un premier extrait de ce téléfilm « Pourquoi je vis ?». Pierre Lemarchal va nous rejoindre d'ici quelques instants pour avoir le regard justement de la famille. On va y poser plein de questions, on a plein de choses qui nous viennent. Sébastien, Mathieu, merci d'avoir produit en tout cas ce très beau téléfilm qu'on découvrira ce soir. C'est l'événement de cette rentrée sur TF1, ça c'est une certitude. Merci à toi Sébastien, à très bientôt.
Je voulais dire un grand merci aussi et puis attirer l'attention sur la performance d'Arnaud Ducret et d'Odile Villemain qui jouent les parents qui se sont beaucoup impliqués dans cette interprétation, dans le travail qu'il y a eu avec toute la famille Lemarchal et puis Laurent Tuel qui nous a rejoint pour réaliser ce biopic qui n'était pas simple à faire et qui a fait un travail formidable là-dessus.
Eh bien voilà, c'est dit. Merci à toi en tout cas Sébastien et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Avez-vous déjà entendu parler de la mucoviscidose ?
Non. Qu'est-ce que c'est ?
C'est une maladie génétique qui obstrue les voies respiratoires, empêche de respirer correctement et atteint le système digestif.
Ah non, pas du tout. Greg fait des grosses bronchiolites, c'est ce qu'on m'a toujours dit, mais à part ça, il est en pleine santé. Non ?
Ses examens et notamment son test de sueur indiquent un taux de chlore très élevé.
Il va être comme papa.
Et c'est symptomatique de la mucoviscidose.
Allez, notre spécial « Pourquoi je vis ?», le film diffusé eh bien ce soir sur TF1. Véritable événement pour TF1 avec ce biopic consacré à Grégory Lemarchal. D'ici quelques instants, celui qui incarne Grégory Lemarchal sera notre invité, Michael Lumière. Mais on souhaitait également eh bien parler avec le papa de Grégory Lemarchal, Pierre Lemarchal, pour avoir justement son éclairage. Et Pierre est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors Pierre, première chose que j'ai envie de te demander, comment tu as réagi au moment où on t'a proposé effectivement ce biopic sur ton fils ?
Bien, puisqu'on a donné notre accord sur ce biopic. Je vous avoue que c'était un peu compliqué jusque-là. Et on a été approchés plusieurs fois, mais au final, on a fini par donner notre accord, en sachant que c'était TF1 qui diffusait ce film, avec la confiance qu'on avait au producteur, en l'occurrence Sébastien Charby avec Mathieu Vergne. Donc voilà, mais on a surtout, c'était C'est surtout pour nous une occasion de mettre en lumière un peu le combat qu'on mène contre la mucoviscidose. Il était essentiel pour nous que des messages forts puissent en ressortir. Des messages d'abord sur la vie que peut mener une famille avec un enfant qui est atteint d'une maladie de cette manière, quoi, de la sorte.
Alors je suppose que tu as raconté beaucoup de choses aux réalisateurs, aux scénaristes, pour qu'il en ressorte évidemment des scènes dans le film. Je pense à la scène évidemment où il prend un CD dans un magasin et il se dit un jour je viendrai acheter le mien. Est-ce que ça s'est réellement arrivé? Est-ce que c'est Greg vous a vraiment fait ça?
Ah oui, c'est tout est respecté. Alors effectivement, il y a une petite part de fiction évidemment dans ce genre de production, mais tout a été respecté à 90-95%. C'est exactement ce qui s'est passé. Cette histoire d'anecdote de CD est quelque chose que je raconte souvent effectivement. Voilà, il était avant qu'il soit connu, avant que Greg soit connu, il était passé devant un présentoir de CD. Il a dit j'aimerais bien un jour avoir mon CD ici. Voilà, c'était un rêve quoi quelque part. Puis un rêve qui est devenu réalité après, puisque il y est passé dans ce magasin pour acheter son CD. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui a été... c'est une belle anecdote, en fait, par rapport au rêve qu'il a réussi à atteindre.
Alors, c'est vraiment un film lumineux. Moi, je le conseille vraiment. Ce soir, on va découvrir voilà un jeune garçon plein d'espoir qui a réussi à atteindre, évidemment, son rêve, celui de marquer les mémoires, où, eh bien, 13 ans plus tard, personne ne l'a oublié. Et aujourd'hui, c'est un véritable combat. Je pense qu'il est fier, là-haut, de voir qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, l'avancée sur la maladie est là, réellement là, qu'aujourd'hui elle permet à des gens de vivre plus longtemps, d'avoir une espérance de vie plus longue grâce à toutes les recherches, grâce à tout l'argent qui a été récolté par l'association et grâce à lui.
Oui, enfin c'est pas dû simplement à notre association, hein. on n'est pas tout seul, mais effectivement Grégory a mis quelque part en lumière la mucoviscidose en fait, cette maladie génétique qui fait que voilà les jeunes partent trop tôt. Effectivement, les progrès sont faits. On fait beaucoup de choses à l'association en termes de recherche, de financement de recherche ou de rénovation des services qui reçoivent les gens atteints de mucoviscidose. Voilà, c'était important de passer ce message. Mais ce message, il va au-delà de la mucoviscidose, en fait. C'est un peu quelqu'un qui perd un jeune d'une maladie de ce style. C'est se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je baisse les bras? Est-ce que je m'enferme? Est-ce que j'en fais une force? Et nous, on en a fait une force. Et il s'avère que beaucoup de choses se sont passées, évidemment. Ça a aidé beaucoup cette communauté des gens atteints par la mucoviscidose. Et on en est vraiment très contents, et voilà.
Alors, je suppose que tu as vu le film avant la diffusion de ce soir, que tu as pu voir quelques rushs, ou que tu as pu voir voilà un pré-montage.
Oui, bien sûr.
Certainement. Alors, comment tu as trouvé Arnaud Ducré?
Avec un point d'humour, je dis c'est dommage qu'il soit pas plus beau que moi. Mais je rigole. Arnaud, c'est une fierté évidemment. C'est quelqu'un qui fait parler de lui en ce moment. C'est un super acteur. Pour en dire la même chose d'Odile, d'Odile Villemain. Et voilà, c'est deux personnages qui incarnent Laurence et nous. Qui voilà, on en est très fiers et on a beaucoup discuté avec eux. Ils se sont bien imprégnés de notre histoire. Et puis Michael évidemment, puisque c'est aussi le personnage du film, un garçon vraiment exceptionnel.
Michael, c'était une évidence, Pierre.
Ah oui, quand on nous l'a présenté, j'ai l'impression qu'il nous a été envoyé, ce jeune homme.
Il est incroyable.
Mais au-delà de ça, d'abord, c'est une belle personne, très simple, mais bosseur au possible. Il s'est imprégné de Grégory, il a tout vu de Grégory, les quotidiennes, parce qu'il était petit lui, à l'époque. Il s'est imprégné de toutes les interviews, les prime time, les quotidiennes de Starac, et puis après aussi. Il a perdu 8 kilos en quelques semaines. C'est parce que c'est quelqu'un qui est un peu plus costaud que Grégory. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris ce rôle, mais alors d'une manière... incroyable.
Et on va en parler avec lui, bien sûr, d'ici quelques instants. Pierre, je te remercie infiniment d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, clairement, avant de se quitter, moi, j'aime bien qu'on le rappelle toujours, comment on peut t'aider, comment on peut aider l'association Grégory Lemarchal.
Oui, on peut nous aider par SMS au 92-777 avec des dons qu'on peut faire à 10 euros en mettant Greg 10 ou Greg 20. Il y a également le site de l'association, www.association-grégorylemarchal.org. On trouve évidemment sur les moteurs de recherche. Et effectivement, alors c'est des messages qu'on passe, mais si ça peut en plus aider l'association dans des périodes qui sont un peu compliquées, en ce moment avec tout ce qui se passe sanitairement, pour nous c'est très important, comme ça l'est aussi pour les autres assos évidemment. Et juste un petit message aussi en ce qui concerne la mucoviscidose, puisque à la fin du mois il y a la journée nationale de lutte contre la mucoviscidose à travers les virades de l'espoir. Et là je vous invite vraiment à vous y rendre tous. Parce que voilà, on y apprend beaucoup de choses et puis on se sensibilise encore plus sur cette maladie.
Et puis une façon aussi, une belle façon d'aider l'association, bien évidemment aussi, eh bien c'est de se procurer eh bien le magnifique album qui est sorti vendredi et qui regroupe toutes les chansons de Grégory dans ce magnifique album hommage qui est sorti dans les bacs vendredi dernier, justement ce 4 septembre. Donc voilà, ne pas rater bien évidemment, puisque tous les bénéfices des ventes de cet album sont reversés à l'association.
Oui, c'est ça, Alain. Et puis sur ce CD en plus, il y a des petites surprises. Il y a la voix de Greg quand il était jeune. Voilà, ça fera plaisir sans doute à tous ceux qui ont apprécié l'artiste.
Et il y a trois titres inédits, je crois aussi.
Ben c'est justement de ces titres-là que je parle. Et c'est des titres qui ont été chantés par Greg avant qu'il soit connu. C'est assez impressionnant la voix qu'il avait effectivement à cet âge-là. Voilà, enfin, on laisse évidemment les gens découvrir tout ça à travers cet album que sort Universal. On a également sur l'album un DVD.
Oui.
On a voulu que les gens puissent revoir Grégory à travers le DVD de l'Olympia, voilà, qui a été capté.
Le concert, et, 2006.
Le concert de l'Olympia en 2006, et voilà, c'était un plus aussi dans ce double album.
Eh bien, écoute, c'est franchement, c'est le cadeau idéal de la rentrée à se faire. Et puis on va s'écouter Grégory comme ça, toujours pour le plaisir, juste avant de retrouver Mickaël Lumière qui va être avec nous d'ici quelques instants. Merci Pierre encore une fois, et puis à très bientôt.
Merci Alain, merci à tous.
Et à très vite.
Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais.
Allez, c'est notre coup de cœur aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Pourquoi je vis, diffusé ce soir sur TF1, un magnifique téléfilm consacré à la vie de Grégory Le Marchal. 13 ans que Grégory nous a quittés, pourtant il est toujours dans toutes les mémoires. Les chansons, on les fredonne, écrit l'histoire. Je suis en vie et tellement de tubes qu'il a fait en peu de temps. Et aujourd'hui, ce téléfilm hommage va raconter sa vie et magnifiquement interprété, je dois le dire, parce que moi j'ai eu la chance de voir le film avant tout le monde, par Mickaël Lumière qui est en ligne avec nous. Bonjour Mickaël.
Bonjour, c'est très gentil, merci beaucoup.
Merci d'être avec nous. J'ai trouvé ton interprétation absolument incroyable, juste, une ressemblance époustouflante. Et vraiment, ça a dû être, je pense, de grands moments d'émotion, le tournage de ce film.
Bah, merci beaucoup, alors, ça me touche vraiment ce compliment. Et oui, c'était très fort en émotion, oui. C'est une grande responsabilité d'incarner quelqu'un comme ça qui a fait l'unanimité à l'époque et qui est encore aujourd'hui très présent, qui a encore une communauté de fans qui le suit énormément. Et donc, j'avais une grosse pression et c'est vrai que ça a été fort en émotion, quoi. Ça a demandé de... Ce compliment, ça me fait plaisir, du coup.
Mickaël, comment tu t'es préparé à ce rôle? Tu as regardé les concerts? Est-ce que tu t'es refait des passages de la Star Academy 4, pour le coup? Parce que tout est reconstitué dans ce téléfilm. C'est ça qui est assez troublant, c'est que la Star Academy a quitté les écrans depuis maintenant une dizaine d'années. Et retrouver ce plateau, cette ambiance, parce que même Nikos joue son propre rôle. Toi qui as regardé peut-être des passages ou pas de cette Star Academy 4 où Grégory a participé.
Oui, exactement. Mais en fait, je regardais déjà à l'époque. Je me souviens très bien de cette époque-là. Je rentrais chez moi et de l'école avec ma mère. Je regardais l'émission et tout. Et ça m'avait beaucoup marqué cette personnalité-là. Je me souviens très bien de Grégory. J'ai l'impression qu'on voyait que lui. Et je sais pas. J'adorais cette émission parce que j'adore le milieu du spectacle. Et je savais pas si je voulais devenir chanteur, acteur ou quoi que ce soit. En tout cas, j'aurais adoré faire cette émission. Et je regardais ça et je me souviens de sa victoire. Et après, j'ai suivi sa carrière. J'écoutais ses chansons. Je me souviens de son décès, tout ça. Donc ça m'a beaucoup marqué de pouvoir l'incarner aujourd'hui. C'était une chance, un rêve incroyable. Et ça m'a demandé de me replonger dans cette époque-là. Donc j'ai revisionné tout ça, tous les quotidiens de la Starac avec beaucoup de nostalgie. Et voilà, j'ai essayé d'analyser toutes les vidéos que j'ai pu trouver, surtout en l'observant beaucoup, quoi. J'ai observé son attitude, sa façon de se mouvoir, sa façon de parler, de rire, tout ça. Et sa façon de se tenir sur scène aussi, parce qu'il avait un charisme, une présence particulière. Donc j'ai découvert la personne au-delà de l'artiste. J'ai plus compris sa personnalité. Je trouve ça fascinant. Et puis je me suis aussi beaucoup documenté sur la maladie, la mucoviscidose, que je connaissais moins. Et je connaissais que dans les grandes lignes. Donc là, j'ai rencontré des personnes atteintes de cette maladie qui font partie de l'association Grégory Le Marchal, qui m'ont raconté leur quotidien pour que je puisse mieux comprendre que ça engendrait comme soin, et ce que ça prenait comme temps, comme énergie et tout. Donc ouais, c'était un travail d'immersion qui était très très intéressant. C'est génial.
Alors il est vrai que pour ses parents, hein, pour Pierre et Laurence et Leslie, sa sœur, c'est le combat d'une vie. Tu les as rencontrés avant le tournage. Comment ça s'est passé? Est-ce que voilà, est-ce que Pierre et Laurence ont parlé longuement de Grégory, ou est-ce que t'as préféré faire le tournage avant et peut-être les rencontrer après? Comment ça s'est passé avec eux?
Alors, on s'est rencontrés avant le tournage, juste après la période de casting, en fait. J'avais un peu peur. Et en fait, ils ont été très bienveillants avec moi. Et son père est venu très souvent sur le tournage pour me raconter des choses, pour me guider aussi. Il voulait s'assurer que tout ce qu'on voit à l'écran soit bien crédible et vrai par rapport à la maladie et tout ça. Donc, c'était super. C'était une super expérience de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Et puis, c'est des gens tellement gentils, avec vraiment le cœur sur la main. C'est des gens qui font le don d'eux-mêmes chaque jour, quoi, pour sauver des vies. Je trouve ça admirable.
Quels ont été les moments les plus forts du tournage pour toi?
Les moments les plus forts, alors je pense que c'est le premier jour de tournage, qui est aussi la première scène du film. C'est le prime de SOS d'intérieur de presse à la Starac. C'était mon premier jour de tournage et je me souviens qu'on a tourné ça à 23h sur le plateau d'une émission qui s'appelle La Chanson Secrète. Donc on s'est invité sur le plateau à la fin de l'émission et donc le public de l'émission est resté pour tourner la scène, et il y avait Nico, c'est tout ça. C'était la première fois que je rentrais dans le personnage et je me souviens que je devais faire un playback comme ça devant 500 personnes. Et je tremblais, j'étais en un quart de seconde, hein, en fait, mais c'était tellement fort en émotion de tous les côtés, c'était fou, je me souviendrai toute ma vie. Ça vraiment, ça m'a marqué.
Quels sont les projets pour toi, Mickaël, pour la suite?
Pas au cinéma, sur une plateforme, dont je ne peux pas encore dire le nom, malheureusement, dans un long métrage, c'est une comédie, et je tourne à la rentrée là, le 15 septembre, donc je suis très très content, je commence à travailler dès maintenant, c'est super. Et voilà, pour l'instant, c'est ça, les futurs projets.
Eh ben, c'est bien déjà, en tout cas. Enfin, moi, je peux vous dire que vous allez, si vous connaissez pas Mickaël Lumière, vous allez vraiment le découvrir ce soir dans un rôle absolument époustouflant. Et moi, je vous conseille vraiment ce téléfilm, Pourquoi je vis, le rendez-vous à ne pas rater sur TF1 ce soir à 21h10. Et vous allez apprendre en plus plein de choses sur la maladie, parce que même moi, en regardant le film, bah, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Donc voilà, vous allez apprendre plein de choses et ça va peut-être vous donner aussi envie, eh bien, de vous liguer contre cette maladie. Voilà, il y a des choses, effectivement, on peut donner pour l'association Grégory Le Marchal aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Mickaël, merci à toi.
Bah, merci à vous, Alain, vraiment, c'est très gentil de votre part, tout ça, et puis j'espère qu'on se recroisera.
Eh bien, justement, on va se quitter, Mickaël, avec un tout petit extrait de SOS Terry André Tress. C'est le début du film, on va se quitter avec un tout petit extrait. Merci à toi, à très vite.
Merci beaucoup.
Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau.
Pourquoi je vis? Le biopic inédit sur Grégory Le Marchal, bientôt sur TF1.
Et Chute en écoute la télé continue dans un instant avec Stéphanie Pilonka, Julie Debona pour le téléfilm Apprendre à t'aimer et avec Caroline Benaroche. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute en écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chute en écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé, cette semaine consacrée au téléfilm M6, Apprendre à t'aimer, avec la réalisatrice qui est justement avec nous, Stéphanie Pilonka. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Merci d'être là. Et Julie Debona, une invitée toujours permanente quasiment de l'émission. T'es quasiment toute l'année maintenant chez nous.
Mais tous les mois, je viens te voir en fait. Bonjour.
Exactement. Et pourtant, elle tourne. Je peux vous dire, parce qu'on la voit minimum une fois par semaine à la télé. C'est un truc de fou.
Je me dédouble.
C'est exactement ça. Il y a des fois, au nombre de prime time, je sais pas comment tu fais pour arriver à les tourner tous. Ça doit être 12 mois sur 12.
Même moi, je me dis, mais t'es encore à la télé, mais qu'est-ce que tu fous là?
Exactement. Le bazar de la charité, le tueur du lac. Bon, là, on est loin du bazar de la charité. On retrouve notre Julie Debona, belle comme un cœur, dans ce film. est dans cette histoire magnifique, Stéphanie, où Julie joue le rôle de Cécile. Mais on va planter déjà le décor avec toi, si tu veux bien.
Oui, c'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'un couple qui s'aime beaucoup, à la folie, passionnément, et qui va être confronté à la différence, à la naissance de leur petite fille handicapée, qui est porteuse de trisomie 21. Donc c'est un couple qui va vivre un tsunami émotionnel, et Julie incarne donc l'épouse et la maman, qui s'appelle Cécile, et qui va réussir à dompter tous ses démons et à être le pilier d'une famille, une famille à la dérive, et d'un homme qui perd pied, d'un homme qui se noie parce qu'il a peur, parce qu'il souffre, et elle va devoir être une mère courage, pleine d'espoir, pleine de force, et une mère qui rebondit, et une mère qui va au-delà de la difficulté, et elle le fait avec une maestria qu'on lui connaît, bien sûr. Mais dans ce film-là, j'aime bien lui dire qu'elle a plusieurs visages. On la voit démunie, on la voit perdue, on la voit rayonnante, on la voit séductrice, on la voit mère, on la voit épouse, on la voit maîtresse, on la voit amie. Elle est assez particulière dans tout ce qu'elle a pu déployer comme facette de jeu.
Non, mais moi, j'ai pas à contrôler, en fait. J'ai eu un coup de foudre pour Stéphanie, pour notre réalisatrice, qui fait un travail qui part d'un travail de documentaire, parce que c'est un truc qu'elle maîtrise. Elle a déjà fait plusieurs documentaires. Donc pour moi, c'est tout nouveau. C'est aborder un film par l'intérieur, par la véracité, par des témoignages, des vrais gens, et la fiction naît de là. Inversement à d'autres fictions où tu racontes une histoire et puis tu vas essayer de trouver quelque chose qui est vrai là-dedans. Alors que là, c'est l'inverse. Et donc, embarquée par cette énergie folle qu'elle a, Stéphanie, de vouloir défendre les choses, donner un message, montrer la vérité, casser les clichés, les préjugés. Ben voilà, c'est des moteurs qui sont complètement différents de d'habitude. On est là pour raconter l'humain, on est là pour autre chose qu'un film, on est là pour un message. Enfin, c'est génial, quoi. Donc je me suis complètement embarquée par elle. Donc j'ai travaillé comme d'habitude mon rôle, mais je me suis laissée faire, en fait, par Stéphanie. Et elle a cette qualité et cette particularité de voler les images.
C'est un vrai parcours sur l'acceptation que on va vivre sur 2 fois 50 minutes dans ce film, Stéphanie. Le choix de Harry et de Julie.
Oui, Harry, il est surprenant parce qu'il s'est complètement dépouillé et il a pris le risque de laisser de côté ses codes pour être lui-même en transparence et en simplicité. Et c'était chouette de pouvoir lui proposer ce pari-là. C'était assez audacieux, assez courageux aussi, de proposer quelque chose, de montrer un aspect que l'on ne connaît pas de lui, de se risquer à ça. Et c'est vrai qu'il est étonnant. Et oui, il y a eu un vrai désir de ces comédiens. Moi, j'ai écrit en m'inspirant d'Harry, et j'arrivais pas à lui trouver une femme à la hauteur. Et puis, lorsque j'ai vu Julie, parce que moi, je travaille beaucoup sur Instagram, mais je connaissais Julie parce que je savais qu'elle joue au théâtre, parce que je l'avais vue au cinéma. Mais c'est pas sur un truc, je savais même pas, c'est en allant dans le village dans lequel on a tourné, quand j'ai lu Julie de Bonnat et que j'ai vu, je t'avais dit, toutes les dames qui ont fait « Quoi, Julie de Bonnat ?» J'ai dit, ah ouais, j'ai bien choisi, en fait. Quand j'ai vu toutes les jeunes nénettes qui étaient complètement ouf, j'ai compris que Julie de Bonnat, c'était vraiment un nom. Mais moi, c'est le regard qu'elle a. Il y a une photo où elle tient son enfant quand elle est maman. Quand j'ai vu son regard là, que j'ai dit, il faut que je comprenne. Et je suis allée chercher des photos d'elle et je me suis plongée dans Julie de Bonnat et j'ai dit, c'est elle.
Quand on la voit dans Ils ont échangé mon enfant aussi.
Mais moi, voilà. J'ai vu après sur une photo Instagram qu'elle s'est dit ça, t'imagines?
Il y a une vraie photo de toi avec ton vrai bébé.
Mon fils, ouais, c'est.
Et en fait, Julie, elle a. C'est pas vrai qu'on se laisse faire, les comédiens, tout ça. Non, parce qu'elle a l'intelligence de la comédienne, elle a l'humilité et elle a la candeur d'une comédienne débutante. Et ça, c'est beau, parce que on s'enorgueillit de tournage en tournage. Quand tu vas me voir à mon 4e unitaire, je serai puante. Non, je rigole. Mais elle pourrait dire, je suis Julie de Bonnat, j'arrive, machin, je vais t'apprendre. Elle a travaillé des super réals, elle a fait des succès. Enfin, il n'y a pas beaucoup de nanas qui peuvent te dire, moi, j'ai réuni 9 millions de personnes à telle heure, tu vois, voilà. Mais elle a l'innocence, l'humilité et la très grande fraîcheur d'une débutante. Donc, elle s'émerveille. Et la faculté d'émerveillement chez un acteur, c'est le succès, c'est la clé. C'est-à-dire qu'elle est poreuse, tout est ouvert. Elle n'est pas sur ses acquis et elle est prête à... Elle est dans un émerveillement parce qu'elle aime la vie. Et une actrice qui aime la vie, une actrice qui est gourmande, elle est gourmande d'émotions. Et ça, c'est rare, parce que moi, j'ai été très modestement comédienne, je connais très bien les comédiennes, j'ai beaucoup de copines, de grandes comédiennes. Il y a quelque chose avec le succès qui fait que, voilà. Mais elle, elle a l'émerveillement de la vie, elle est foncièrement ancrée dans la vie, et ça, pour un réalisateur, quelqu'un qui est ancré, qui est dans la lumière, c'est un vrai cadeau. Parce que même quand elle doute, elle te renvoie à toi. Moi, j'ai appris sur le plateau à cause d'elle. Maintenant, il y a plein de trucs que je savais pas. Et elle n'est pas venue en me disant « Je suis Julie Bonnat, je fais 9 millions de trucs, un tel ». Non, elle m'a appris sans m'apprendre. Et ça, c'est super chouette. C'est chouette.
On va te laisser parler, Julie, parce qu'il faut que tu réagisses. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir sur ce tournage ? Quelle est ta scène qui t'aura marqué le plus ?
Bon, déjà, je voulais répondre à ma Stéphanie que je savais pas ce que j'étais, et ça me fait plaisir parce qu'elle a dit des mots. Bah, je dis, ah, c'est ça, en fait. Non, je rigole. Non, ça me touche profondément, ma Steph. C'est un bonheur. Alors, c'était quoi ta question?
La scène qui t'a marqué le plus.
La scène qui m'a marqué le plus. Je crois que c'est la première scène de tournage où je suis avec le kiné et je connaissais pas bien Naomi, la petite, et elle arrive, voilà, je m'effondre et tout ça, et tout d'un coup, elle arrive et elle me tend les bras, elle fait mama, 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 et elle me fait un câlin. Donc dans la scène, je devais pleurer et la petite a compris que j'étais sa maman dans le jeu et elle est venue m'embrasser. Donc là, nos amis, tout le monde a été scotché et on a dit ok, on est avec un enfant exceptionnel. Parce qu'il n'y a aucun autre enfant qui est capable de faire ça sur un tournage. Hein. Donc c'est là que je te dis ok, donc ils ont quelque chose en plus. Et c'est ailleurs en fait, il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir ses yeux, il faut regarder différemment. Et là d'un coup, on a regardé avec le cœur, on a fait ok, elle est donc exceptionnelle, hyper intelligente, hyper connectée, plus intéressante que n'importe quel être là. Voilà, et donc on a dit, ça nous a mis dans le tournage tout de suite, tu vois, que ça allait être bouleversant.
Bon, je pense qu'on va passer un bon moment. En tout cas, vous allez être certainement, voilà, très très ému en regardant ce film. Apprendre à t'aimer, c'est cette semaine sur M6. Ne le ratez pas. Merci à toutes les deux d'être passées nous voir pour en parler.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Bonjour. Comment ça va?
Ça va.
Bonjour.
Je vous présente le docteur Maisonneuve. C'est le pédiatre qui a examiné Sarah.
Alors voilà. On avait pensé à un syndrome de Down. Du fait de l'hypotonie de votre fille à sa naissance. Mais comme il n'y avait aucune autre caractéristique, on a pensé que c'était dû à votre accouchement compliqué. Sauf que là, on a les résultats de son caryotype, et c'est bien un syndrome de Down.
Ça veut dire quoi?
Que votre fille est porteuse de trisomie 21. On va déjà s'assurer qu'elle ne souffre pas de malformations cardiaques. C'est le cas de 40% des enfants porteurs de trisomie 21. Mais dans la plupart des cas, ça s'opère.
Allez, coup de cœur télé à France 5 qui va programmer un documentaire inédit demain soir. Tu seras hétéro, mon fils, réalisé par Caroline Benaroche qui est avec nous. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Merci.
Merci de te voir.
Eh ben merci d'être avec nous, surtout Caroline, pour un sujet fort, un sujet difficile, une enquête passionnante que les spectateurs de France 5 vont pouvoir découvrir demain soir. C'est le parcours de Lucas, Mathieu et Jordan. Tu seras hétéro, mon fils. Ça, ce ne sait peut-être pas, mais aux États-Unis, il existe carrément des camps de conversion. C'est incroyable.
En effet, c'est ce que j'ai découvert pendant mon enquête, c'est-à-dire que je me suis intéressée au sujet, en fait, après avoir vu un film au cinéma qui s'appelait Comme un vieux art et qui racontait le parcours d'une jeune adolescente surprise à l'arrière d'une voiture avec une jeune fille de son lycée qui était envoyée dans un camp. En sortant de la salle de cinéma, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas exister. En tout cas, encore aujourd'hui, je suis allée faire quelques recherches sur Internet et là, en effet, j'ai été très surprise de réaliser que des milliers de jeunes Américains étaient envoyés soit dans des camps, comme celui dans lequel est allé Lucas, où vraiment c'est le pire camp possible, ou alors auprès de thérapeutes qui promettent souvent à leurs parents de les faire changer d'orientation sexuelle.
Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est est-ce que ce genre de choses existe en France ou pas?
Alors, ça existe en France sous le manteau, ce n'est pas interdit. Il y a d'ailleurs une députée LREM qui essaye de les faire interdire en ce moment même. Il y a quelques centres qui promettent à des parents comme ça de changer l'orientation sexuelle de leurs enfants, mais c'est beaucoup, beaucoup moins développé qu'aux États-Unis. Néanmoins, il faudrait de toute manière réussir à les faire interdire en France.
Ça a été évoqué, mais de façon très furtive, hein, dans la série Demain nous appartient, justement, il n'y a pas très longtemps, cette histoire un peu de camp de conversion, à travers un des personnages qui avait révélé son homosexualité à son père qui ne l'acceptait pas. Comment vous avez trouvé ces trois personnes, Lucas, Mathieu et Jordan, comment vous avez fait pour qu'ils acceptent aussi de témoigner, de se livrer à vous?
Alors d'abord, j'ai cherché évidemment sur Internet des témoignages, des associations qui prenaient la défense de ces adolescents. Il faut savoir que 700 000 homosexuels aux États-Unis ont déjà subi une thérapie dite de conversion et que chaque année, ils estiment qu'environ 77 000 jeunes en sont victimes. Donc en passant par ces associations-là, j'ai pu parler à de nombreux jeunes qui avaient subi ces thérapies. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, je me suis attachée à raconter les parcours de ces trois garçons. Donc, Matthew, qui vient de New York, de l'État de New York, d'une famille plutôt aisée, de confession juive. Jordan, qui lui vient d'Alabama, l'un des États les plus rétrogrades, dirons-nous, des États-Unis, et qui vient d'une famille chrétienne très religieuse. Et le parcours ensuite de Lucas, qui lui a subi, on va dire, ce qu'il peut y avoir de pire dans la thérapie de conversion. Et voilà, et en parlant de nombreuses heures avec eux au téléphone, en échangeant durant plusieurs mois, ils ont finalement accepté de se livrer vraiment sans filtre, face caméra. Matthew avait l'habitude déjà de raconter son histoire, puisqu'aujourd'hui, il fait la promotion d'une loi qui interdit ces thérapies de conversion à l'intention des mineurs un peu partout aux États-Unis. Mais pour Jordan, par exemple, je crois que c'est la première fois qu'il se livrait ainsi face caméra. Pour Lucas aussi, à ce point-là aussi.
Et est-ce que ce documentaire a vocation à être diffusé aux États-Unis?
Je l'espère, je ne sais pas encore. Mais il y a plusieurs associations qui, en effet, souhaitent le diffuser.
Ouais, ça serait pas mal hein, quand même. Hein.
Enfin, qu'il soit diffusé, oui, ça serait bien.
Bon, Caroline, merci en tout cas d'avoir été avec nous avoir éclairé un petit peu plus. Combien de temps a nécessité le tournage avant de se quitter?
Le tournage, j'ai passé environ un mois aux États-Unis. Tout avait été évidemment calé, organisé en amont.
Bien sûr.
Et c'était un bon mois de tournage sur place.
Eh bien, on va voir le résultat. En tout cas, demain soir, tu seras hétéro, mon fils, à 20h50 sur France 5. On ne le rate pas et on va se quitter avec un petit extrait, un témoignage très fort en tout cas. Merci Caroline d'avoir été avec nous pour en parler.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
Au revoir.
Les États-Unis, terre de tous les possibles, de toutes les libertés, d'entreprendre, de réaliser ses ambitions, d'être soi-même. Derrière le rêve américain peut se cacher un cauchemar. Pour une frange de l'Amérique, être homosexuel demeure intolérable. L'homosexualité serait à leurs yeux une déviance qu'il faut soigner. Par pression sociale, familiale ou religieuse, 700 000 Américains ont subi des traitements supposés changer leur orientation sexuelle. On les appelle thérapie de conversion.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous aurons pas un coup de cœur ciné mais deux, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Antoine de Maximi pour le film J'irai mourir dans les Carpates, grande spéciale, avec également le producteur du film qui sera notre invité. Nous consacrerons également une partie de notre émission à la sortie du film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, le premier film d'Emmanuel Mouret qui sera notre invité avec Vincent Macaigne. Un rendez-vous évidemment à ne pas manquer. Et puis Arnaud Ducré également avec Sarah et Pierre Aknin seront avec nous pour nous parler de la fiction événement d'M6, un homme ordinaire sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Vous l'avez compris, on n'aura encore pas de quoi s'ennuyer dans Chute, on écoute la télé.
VFM, votre radio de proximité sur 88.9.
Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec la quotidienne à 11h15 et 18h15 sur VFM. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute, on écoute la télé et téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android Chute, on écoute la télé. Je vous retrouve donc également lundi prochain à 18h pour la grande hebdo. D'ici là, passez une très très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur VFM.
Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Boé, près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur réal-chocolat.com. Réal Chocolat fait naître la gourmandise. Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center d'Agen Boé. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille 26 route de la Capelette à Boé.